Il est 8h.
Un nouveau salarié qui est arrivé récemment. J'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement.
C'est la deuxième secousse de la révolution télétravail. Elle a déjà changé le quotidien des salariés. Voilà que des recruteurs embauchent sans se demander où habite le candidat. Au passage, on paye moins cher quelqu'un qui vit loin de Paris. C'est le dossier d'Europe 1 dans quelques secondes. Il veut renverser le gouvernement français, suspendre les impôts, démanteler la 5G. Le profil ahurissant de l'homme exilé en Malaisie et qui semble avoir inspiré les ravisseurs de la petite Mia la semaine dernière. Et puis, que vaut vraiment le projet de Super League de football ? Nous serons dans ce journal avec Charles Villeneuve, ancien président du PSG, ancien patron des sports de TF1 également. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron a lancé une offensive sur le thème de la sécurité. Pour lui répondre ce matin, le candidat à la présidentielle et président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, c'est sûr, la campagne est partie. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Comme souvent, le vent de la nouveauté est venu par les États-Unis, côte ouest, San Francisco, l'univers des start-up et des GAFA, où l'on s'arrache des ingénieurs aux têtes bien faites et à qui l'on doit payer un loyer exorbitant dans cette Silicon Valley surpeuplée. Le télétravail, ou home office, comme on dit sur place, a tout changé. C'est en train d'arriver en France et la révolution, ça n'est pas de constater que les bureaux sont vides ou qu'il faut s'équiper d'un bon fauteuil à la maison. Le recrutement voit des possibilités nouvelles.
Et on va comprendre comment avec vous, Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Bonjour Maude.
Bonjour.
Les entreprises françaises recrutent désormais bien au-delà de leur bassin géographique habituel.
Oui, le phénomène est relativement récent, mais je vais vous donner un exemple concret. Arnold Zéphir est PDG d'une entreprise de 50 salariés dans le numérique à Paris. Depuis quelques mois, il a complètement changé ses habitudes de recrutement.
On a un nouveau salarié qui est arrivé récemment. J'ai découvert qu'il était à Lille. Ça fait 3 mois qu'on a commencé le recrutement avec cette personne et jamais on s'est posé la question de où il était physiquement, en fait. Je me souviens qu'il y a 2 ans environ, on avait eu une phase de recrutement et on avait refusé un candidat qui était à Carcassonne. Il était bon, c'était quelqu'un qui collait très bien au poste, mais on s'est dit « Ah non, il pourrait venir qu'une journée par semaine, c'est embêtant et tout ». Maintenant, on se pose plus la question.
Voilà, et pour ce PDG, recruter loin de son siège, ça lui permet surtout d'aller chercher de nouvelles compétences.
On arrive à recruter des profils un peu plus expérimentés. Ouais, on l'a bien vu, le phénomène que des ingénieurs ou des commerciaux très expérimentés, on va dire de 45-50 ans, qui sont partis en province, maintenant, on peut se permettre de les embaucher, alors que, effectivement, c'est des gens qu'on trouvait à Paris qu'à des prix... ils existent toujours, mais... ceux qui étaient restés sur Paris étaient à des prix déraisonnables pour une société comme la nôtre.
Et ça marche aussi pour des entreprises de province qui vont pouvoir recruter des profils bien spécifiques. Une entreprise dans un cadre industriel dans les Hauts-de-France, par exemple, va pouvoir recruter un salarié qui habite dans le Morbihan ou sur la Côte Basque sans devoir le convaincre de déménager.
Et alors ce qu'on comprend aussi, Maude, c'est qu'il y a aussi un intérêt économique à recruter en province quand on est une entreprise basée à Paris.
Oui, alors ça c'est ce qu'observe David Beaurepaire, directeur délégué du cabinet de recrutement Hello Work.
Très probablement ça va avoir un impact sur les salaires. On est sur des choses qui sont de l'ordre de 10 à 15% en deçà des salaires qui peuvent être pratiqués en Ile-de-France. Après, derrière, il faut bien prendre en compte qu'il y a des frais de déplacement. Donc, qui va prendre en charge ces frais de déplacement si vous habitez à Marseille et vous devez vous rendre sur votre lieu de travail 2, 3 fois, 4 fois par mois, qui est basé en Ile-de-France.
Le phénomène a donc ses limites et les entreprises prêtes à passer à 100% de télétravail sont rares. Les grosses sociétés comme Twitter ou Amazon qui avaient opté pour ce fonctionnement et permis à certains salariés de travailler depuis l'autre bout du monde sont en train de revenir dessus et privilégier quelques jours de présence au travail.
Maude Descamps du service économie de la rédaction qui signe ce dossier ce matin et à propos de ce que la crise sanitaire bouleverse, ce rendez-vous sur Europe 1, la France bouge de 13h à 14h. Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag reçoivent notamment le fondateur de Covid List, ce système de liste d'attente qui évite de gâcher des doses de vaccins. 8h04 sur Europe 1.
Ce rebondissement dans l'affaire de la petite Mia, 8 ans, enlevée la semaine dernière dans les Vosges, retrouvée en Suisse dimanche, un Français de 55 ans, ancienne figure politique en Haute-Garonne, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international selon le journal Le Parisien. Il est soupçonné d'avoir influencé, voire financé les ravisseurs.
Alors qui est ce nouveau protagoniste ? Nicolas Feldman s'est penché sur les traces qu'il laisse ouvertement sur Internet.
Oui, j'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays.
Ces vidéos, c'est l'image que Rémi Daïev-Widmann veut donner de lui. Un conquérant, costume sombre sur fond noir, le quinquagénaire énonce son plan pour un coup d'État pacifique et populaire, jamais très loin du complotisme contre la 5G. Pour la sortie de la France, de l'Europe, il se présente comme un homme de décision. Et c'est d'ailleurs par la politique que tout a commencé. Dans les années 2000, il rejoint la direction du MoDem en Haute-Garonne. Le député Jean-Luc Laglaise se souvient.
C'est un garçon qui avait la parole facile, qui était très mythomane, qui avait très envie d'être brillant. Je sais qu'il avait l'intention de se présenter à la présidence nationale du MoDem et pour essayer d'embêter François Bayrou, il avait enregistré un conseil national en essayant de faire du chantage, mais bon, c'était dans sa folie.
Et trop extrême, trop mégalo, il est exclu du parti. Mais Rémi Daïev-Widmann poursuit son combat sur les réseaux sociaux et y développe un prosélytisme complotiste. L'un de ses combats, mettre fin, dit-il, au placement abusif d'enfants. Alors est-ce dans ce cadre qu'il est impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia? Et si oui, de quelle manière? Son nom serait en tout cas cité par plusieurs des mises en cause.
Nicolas Feldman, mortier, pétard et jet de projectiles sur les policiers. Le quartier de la Croix-Rouge à Tourcoing est le théâtre de violences urbaines depuis samedi soir.
Oui, Tourcoing, c'est la ville dont Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a été le maire jusqu'à l'été dernier. Ville qui faisait peu parler d'elle pour ce genre d'actualité. Alors que se passe-t-il sur place? Europe 1 a voulu s'en rendre compte directement sur le terrain. C'est un reportage de Jean-Jacques Herry.
Au sol, une marque noire rappelle qu'ici, samedi soir, une voiture a brûlé. Pourtant, la Croix-Rouge n'a rien d'une zone de non-droit. Selon les jeunes, tout est parti d'une interpellation lors d'un rodéo sauvage. Le mot « bavure » est sur toutes les lèvres.
On avait un ami à nous qui était en moto, il était sur l'herbe, il était à l'arrêt. Et il y a un camion de CRS qui a fait exprès de le taper.
Il s'est passé une bavure policière, ça n'a rien à voir avec le stupéfiant.
C'est pourtant ce que disent la mairie de Tourcoing et la police. Elles estiment que leurs actions dérangent le trafic de drogue et que c'est cela qui pourrait être à l'origine de la flambée de violence. Mais au pied des immeubles, tout n'est pas aussi clair. Ce qui apparaît le plus crûment, c'est la difficulté du dialogue entre une police qui patrouille en voiture et des jeunes qui s'estiment sous pression avec des confinements et un couvre-feu qui n'ont rien à ranger.
Et la police, je ne sais pas bien ce qu'ils font. Ils nous voient, on squatte. Voyons faire un mal, on n'embête personne, ils viennent, ils nous verbalisent des 135 euros, ça parle mal, ça nous insulte. Voyons, on commence à en avoir ras-le-bol.
De là à balancer des mortiers, interroge alors un ancien médiateur respecté dans le quartier. Vous empêchez tout le monde de dormir, sermonnent-ils les jeunes qui baissent les yeux. Ils se sentent délaissés, la mairie n'aide pas les quartiers, dit-il. Il n'y a plus rien pour eux, même le club de foot de la S Virolois Croix-Rouge, il n'existe plus depuis 6 ans. Tourcoing, Jean-Jacques Herry. Europe 1.
L'actualité internationale, c'est l'Allemagne ce matin. On va sans doute devoir apprendre à connaître son nom, Armin Laschet. D'ailleurs, il va devoir travailler sa popularité. C'est lui que la CDU, le parti chrétien-démocrate, a confirmé comme étant le successeur d'Angela Merkel s'il gagne les élections de septembre.
Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
En ligne de Berlin pour Europe 1. Après 8 jours de guerre fratricide dans ce parti, la CDU semble en miettes.
Effectivement, le Merkelien arrive en lambeaux après cette séquence. Quelle ironie pour Armin Laschet qui a été élu président du parti en janvier seulement, justement pour ses capacités de rassembleur. C'est un modéré et encore, ce n'est pas la fin du suspense. Il faut que l'autre prétendant au trône de chancelier, le bavarois Söder, accepte le vote de cette nuit. Alors certes, les divisions dans la famille conservatrice allemande, les guerres d'égo entre les présidents de région, ce n'est pas nouveau. Mais depuis 20 ans, à un moment donné, il y avait toujours Merkel pour siffler la fin de la récréation. Cette nuit, elle a assisté à cette réunion de crise pendant 7 heures. Elle n'a pas ouvert la bouche. C'est désastreux pour le parti qui, évidemment, comptait surfer sur sa popularité. En fait, derrière l'arbre Merkel, eh bien, il n'y a pas de forêt. Le parti n'a rien à proposer et n'a pas de leader naturel.
Oui, alors Hélène, cette division, à qui est-ce qu'elle peut profiter ?
À ce stade de la campagne, soyons prudents, clairement aux Verts, qui sont deuxièmes dans les sondages et qui ont offert hier un contraste éclatant en nommant une candidate pas forcément populaire, mais reconnue au-delà de sa famille politique pour sa grande compétence. C'est une juriste de centre-gauche, posée et ambitieuse. Oui, il y a du Merkel dans cette Annalena Baerbock, 40 ans, qui jouera forcément un rôle dans les prochaines années en Allemagne.
Hélène Kohl, en ligne de Berlin pour Europe 1.
16 années d'Angela Merkel en Allemagne. Rien de comparable avec nos quinquennats français de 5 ans et rien de comparable avec le Tchad où lui est président depuis le 2 décembre 1990. Idriss Déby réélu à la tête du Tchad dès le premier tour avec 79% des voix, résultat annoncé, tandis que l'armée tchadienne affirme avoir maté une rébellion et tué 300 ennemis. Sur le papier, elle est super, cette Super League de football. Projet de 12 équipes européennes mythiques. Mais hier, on a surtout assisté à un festival de tacles contre l'idée même d'un club privé entre grands noms du ballon rond, d'Emmanuel Macron à Boris Johnson. Même les supporters concernés à Chelsea dénoncent la trahison ultime, tandis que ceux d'Arsenal critiquent un projet qui représente la mort de tout ce que le football devrait être selon leur fondation.
Quant à la grande UEFA, l'Union Européenne du Foot, son président Alexander Seferin est très amer, écoutez.
Il est difficile de croire le niveau d'immoralité de certaines personnes. Le football ne sera pas vendu à ce que j'appelle la sale douzaine.
Bonjour Charles Villeneuve.
Bonjour Mathieu.
Grande voix d'Europe 1, vous avez été président du PSG, directeur des sports du groupe TF1. Je ne cite que ces deux lignes de votre CV puisqu'elles vous donnent un regard unique sur ce projet de Super League. D'abord, pourquoi est-ce que le PSG n'y va pas selon vous ?
Pour une raison très simple, le Paris Saint-Germain a des dirigeants qui appartiennent quasiment, ils sont liés à l'État qatarien, et le Qatar organise la prochaine Coupe du Monde de football. Elle est de toute façon supervisée par la FIFA, la Fédération Internationale, qui a réagi de manière très rapide et très ferme, comme l'UEFA, qui supervise évidemment le football européen et notamment la Champions League. Et dès lors, ils ne vont pas se mettre à dos la FIFA pour aller avec 12 clubs qui ont fait sécession ou qui tentent de faire sécession.
Ah, justement, vous dites qu'ils tentent de faire sécession, ces clubs, Charles Villeneuve, ils ne vont pas réussir ?
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils sont mal partis. D'abord, on ne peut pas se passer de l'Allemagne, et notamment, évidemment, du Bayern. Et je crois que celui qui mène le bal dans cette affaire, c'est le président du Real, le Florentino Pérez. Il m'en avait parlé, j'avais déjeuné avec Zidane et Florentino Pérez il y a un an, et il m'avait de toute façon dit qu'il avait un moyen de pression par rapport à la Super League. Il m'avait parlé de ce projet. Et je lui avais pari au nez, parce que je respecte évidemment Florentino Pérez, mais je lui ai rappelé qu'en 2008, quand j'étais président du PSG, j'avais participé à une réunion et qu'il n'était pas question pour le PSG de s'y joindre.
Alors Charles Villeneuve, après vos déjeuners avec Zidane, vous avez, depuis aussi. L'an dernier, dans le passé, vous avez aussi été donc dirigeant de TF1. Justement, les diffuseurs ont un rôle à jouer dans ce psychodrame du foot mondial.
Bien sûr, parce que c'est eux qui payent. Il ne faut pas oublier, ouais. C'est eux qui payent les droits. Et ça, c'est la raison pour laquelle les super clubs, ces 12 clubs, ne veulent pas continuer. C'est qu'ils ont deux charges. D'abord, un, ils considèrent que l'UEFA se goinfre, passez-moi le mot, c'est-à-dire ramasse beaucoup d'argent avec les droits, ils n'en reversent qu'une partie. Et deuxièmement, avec le fair play financier, qui est une menace aussi, alors qu'ils dépensent un argent fou, avec des salaires fous, de plus en plus. Et par-dessus le marché, ils sont surveillés par un fisc délégué par l'UEFA. Et ça, ils n'en veulent plus.
Merci Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1 et acteur historique du sport, on l'a bien noté.
Facebook innove pour garder ses 2 milliards d'utilisateurs. Le géant américain s'apprête à intégrer la lecture de podcasts directement dans son application mobile. Et puis si vous êtes plus amateur de tradition mais quand même connecté, sachez qu'un nouveau film d'Anton Abbey est en préparation. On y retrouvera tous les acteurs de cette série célèbre pour son atmosphère de noblesse britannique avec domestique et problèmes d'héritage. Maggie Smith, 86 ans, est bien sûr de la partie.
Je sens qu'on a un fan
McGonagall dans Harry Potter.
Ouais, François Geffrier, c'était le journal de 8h. Merci François, très bon réveil à tous, 8h13. Dans un tout petit instant, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, au micro de Sonia Mabrouk. Restez bien sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le président de la région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle de 2022, Xavier Bertrand.
Bienvenue à vous et bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Emmanuel Macron sur le terrain hier pour parler sécurité. Le président veut s'ériger en gardien de la vie paisible. Est-ce qu'il a rassuré les Français de votre point de vue ?
Certainement pas. 4 ans après le début de ses fonctions, cette interview, ce déplacement, comme si les paroles faisaient reculer l'insécurité, faisait reculer les violences. Ce ne sont pas de paroles dont on a besoin. On a besoin d'actes concrets pour protéger les Français parce que aujourd'hui, on le voit bien, leur première inquiétude, leur première exaspération, c'est face à cette insécurité, face à ces violences qui gagnent toute la France, pas seulement les quartiers, aussi en milieu rural.
Des actes, c'est la confirmation d'un recrutement de 10 000 policiers et gendarmes d'ici à la fin du quinquennat. Des actes, c'est la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Mais qui peut être contre cela, dites-moi ?
Avoir des policiers supplémentaires, c'est une bonne chose. Il y en a d'ailleurs depuis quelques années dans les services de renseignement pour lutter contre le terrorisme. Mais ce ne sont pas les policiers dont on a aujourd'hui le plus besoin. Les policiers, aujourd'hui, ils font leur travail. Ils interpellent, ils mènent les instructions, sous l'autorité du procureur. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand vous arrêtez quelqu'un et qu'il n'est pas condamné, ça s'appelle l'impunité. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, et le président de la République s'est trompé à l'interview.
C'est-à-dire?
Il fallait la faire sur la justice, sur la réponse pénale. C'est là aujourd'hui que le bât blesse. Et c'est là où on a besoin de compléter la réponse de l'État, de l'autorité de l'État. C'est sur la question de la réponse pénale.
On va en parler, mais
Vous avez parlé des prisons.
Xavier Bertin, pardonnez-moi, les effectifs supplémentaires, c'est très important. Et vous-même, en vous écoutant ce matin, est-ce que vous êtes crédible et audible, puisque vous faites partie de cette équipe gouvernementale qui a supprimé, ça reste comme une marque, une tâche, 13 000 postes de policiers et de gendarmes. Et on en paye le prix encore aujourd'hui.
Ça, c'est bien la marque de fabrique d'Emmanuel Macron.
C'est-à-dire ?
C'est jamais de sa faute. Ça serait de la faute.
Vous niez ces 13 000 postes supprimés ?
Des gouvernements entre 2007 et 2012. Je n'ai pas l'intention de laisser Emmanuel Macron salir le bilan sécuritaire de Nicolas Sarkozy. Parce qu'à l'époque, la délinquance reculait. Reculait parce qu'il y avait l'action des forces de sécurité, mais il y avait aussi une action de la justice, avec des dizaines et des dizaines de milliers de peines planchers qui montraient que quand il y avait récidive, il n'y avait pas d'impunité. Vous voyez, il y a l'action des forces de l'ordre, il y a l'action des forces judiciaires.
On va venir à la justice, mais par exemple, je vous donne un exemple précis. À Tourcoing, troisième nuit de violence, et les renforts n'ont pas empêché cela. Le gouvernement, et en particulier Gérald Darmanin, explique que c'est l'intensification de la lutte contre les trafics qui est à l'origine de ces violences, que finalement la détermination de l'État paye. Est-ce que vous le reconnaissez?
C'est important, mais regardez bien. Nous sommes certainement l'un des très rares pays au monde où il y a tous les jours des agressions contre l'État, une mise en cause des forces de l'ordre, et qu'il n'y a pas de riposte. Quand un commissariat est attaqué, j'attendais que dans les heures qui suivent, il y ait le rassemblement de forces de police et qu'on interpelle toutes celles et ceux qui pouvaient y avoir été associés et qu'ensuite on les traduise en justice. Vous voyez, ce sentiment d'impunité, il se nourrit de cela. Du fait que certains s'en prennent à la police, les considérant quasiment comme une bande rivale, mais on est dans un processus de décivilisation. Il faut en arrêter avec cela et il faut qu'il y ait une riposte de l'État. C'est ça aujourd'hui qui s'impose.
Mais vous vous opposez ce matin, on l'entend, Xavier Bertrand, mais il y a probablement des auditeurs qui disent Bertrand, Macron, Macron, Bertrand, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Qu'est-ce qui prouve que vous ne serez pas un Macron bis une fois à l'Élysée? Ça vous fait sourire?
Parce que tout nous oppose. Nos parcours, notre vie, l'expérience. Parce que j'ai conscience depuis bien longtemps, déjà en tant que maire de Saint-Quentin, dans ma ville, que ces questions de sécurité, c'est la seule façon de vivre en société. Et je vois les choses se dégrader. J'ai pris des initiatives en tant que président de région, mais c'est au sommet de l'État que ça se règle. Le président de la République, il est chef des armées. Il doit être aussi chef des forces de sécurité. Et de dire que le garant, le premier garant de la sécurité des Français, c'est le président de la République. Et donc, vous me disiez les différences? Mais vous ne pouvez pas, en termes de sécurité, jouer sur le « en même temps ». Il faut de la clarté.
Quel exemple d'en même temps pour Emmanuel Macron?
Vous ne pouvez pas laisser le laxisme s'imposer. Il faut de la fermeté.
Quel exemple d'en même temps? Emmanuel Macron, hier, apporte son soutien aux forces de l'ordre, annonce ses renforts. Quel en même temps y voyez-vous?
C'est celui qui, en même temps, prenait devant lui un t-shirt à Angoulême symbolisant les violences policières. C'est celui-là même qui, sur Brut, reprenait le terme de violence policière et qui, hier, laisse entendre qu'il y a des contrôles aux faciès. Vous savez, le soutien à nos policiers, à nos gendarmes, ça peut pas être à géométrie variable. Parce que si on laisse s'attaquer à eux, c'est à la société, à l'État. Et qui nous protégera demain? Je vais plus loin.
Attendez, c'est important ce que vous dites. Vous réfutez tout contrôle aux faciès, ça n'existe pas. Parce qu'Emmanuel Macron, hier dans le Figaro, pour être précis, dit qu'il n'y a pas de racisme systémique dans la police, réfute désormais le terme de violence policière, mais reconnaît qu'il peut y avoir des contrôles aux faciès. Vous vous dites qu'il n'y en a pas dans notre
pays.
On
ne soutient pas les policiers, les gendarmes, les jours pairs, et on les laisse critiquer les jours impairs. Ça ne se passe pas comme ça. S'il y a des dévoiements de la fonction dont elle est exercée, dans ces cas-là, il y a des sanctions. Mais le premier principe, c'est qu'on les soutient. Et je vais plus loin. Parlons des mesures très concrètes. Parlons des changements qui s'imposent. Je mettrai en place un nouveau texte, qui sera un texte constitutionnel. Il faudra modifier la Constitution et je demanderai aux Français de se prononcer sur un tel texte dès l'automne qui suivra les élections présidentielles. On s'attaque à un policier, un gendarme, un pompier ou un maire, il y aura une peine de prison automatique. automatique minimum d'un an non aménageable. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'il y aura quoi ? Un rappel à la loi ?
Oui,
prenez le
précisons que les remises de peine automatiques ont été abolies quand on attaque un policier, un gendarme.
Mais je veux la première peine. On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent. Prenez notamment ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement.
Quoi ? Ça veut dire que vous, président, cela aurait changé ? Il n'y aurait pas eu ce verdict ?
À partir du moment où vous avez une peine de prison automatique minimum, il ne peut pas y avoir d'acquittement. Même s'il y a l'individualisation des peines, l'individualisation ne pourra se faire qu'au-delà de cette peine d'un an. De la même façon, il faut qu'il y ait une majorité pénale à 15 ans.
Très bien, mais
c'est-à-dire que l'excuse de minorité dès 15 ans, elle pourra être écartée par le magistrat.
Est-ce que vous allez plus loin, Xavier Bertrand, puisque vous évoquez ce verdict dans l'attaque ultra-violente de Viry et des policiers à Viry-Châtillon qui a suscité la colère et l'indignation des forces de l'ordre? Diriez-vous que c'est un naufrage judiciaire?
C'est ce qu'a dit Thibault de Montbrial, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui et il m'expliquait...
Mais vous, candidat à la présidentielle, est-ce que vous dites que c'est un naufrage judiciaire?
Je reconnais l'écœurement, l'exaspération des policiers.
C'est pas ma question.
Non, attendez, je veux bien vous expliquer. Ils ont jugé en fonction du droit d'aujourd'hui. Et le droit d'aujourd'hui, il y a très clairement une forme d'impunité qui est aujourd'hui possible. Moi, je veux mettre un terme à cette impunité, d'où l'idée de ces peines automatiques minimum quand on s'attaque à un policier. Ce qui aurait changé la nature du jugement. Maintenant, on va plus loin. C'est que Thibault de Montbrial l'expliquait.
Qui est l'avocat,
il y a un divorce
policiers,
de l'une des victimes. Un divorce profond entre certaines populations et l'autorité de l'État. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que imaginez tous ces braves gens qui, eux, au lendemain notamment, vous me parliez de Tourcoing et d'autres villes, quand le jour s'est fait, eux, ils croisent encore les dealers, ils croisent encore les délinquants, les criminels, pensons à leur vie, à eux. Et la sécurité, c'est la première des libertés, mais c'est celle aussi qui s'impose. Que l'on soit fortuné ou que l'on soit désargenté, on a droit à cette première sécurité.
Bien sûr, mais le candidat à la présidentielle que vous êtes ne peut pas dire ce matin que c'est un naufrage judiciaire.
Je vous l'indique, avant de faire le procès des magistrats ou des jurés populaires, changeons la loi, c'est ce que je souhaite. Et puis aussi, on va aller plus loin, vous avez ces délinquants qui sont mineurs. Quand ils sont condamnés, il faut les sortir du quartier et les mettre dans des centres fermés. Certains qui sont gérés par la protection de l'enfance, d'autres avec un autre encadrement de type militaire. Il devait y avoir un doublement de ces centres en France. Ça n'a pas été le cas. Je mettrai en place.
On a compris de telles ce matin, on reçoit Monsieur Répression. C'est tout. Un seul. Il n'y a pas deux en même temps, il n'y a pas deux jambes. C'est
J'ai
Monsieur
l'occasion
Répression.
De le dire dans une interview au Point. J'ai eu l'occasion de le faire à Saint-Quentin comme dans ma région. Je crois profondément à la prévention de la récidive, à la réinsertion.
On ne l'a pas entendu
Sonia
bien
Mabrouk,
à un moment.
Je marche bien sur deux jambes. Il y a la sanction qui doit être très ferme, mais il y a aussi la possibilité pour ceux qui veulent s'en sortir, de les aider à s'en sortir. C'est important pour la société.
Continuons à interroger la justice, c'est le cas dans l'affaire Sarah Halimi. En renonçant à juger un meurtre à caractère antisémite sous l'emprise de stupéfiants, quel signal a envoyé la justice selon vous ?
Que ce triple drame, un crime odieux, un crime antisémite et l'absence de procès. Je lisais Raïm Korsia ce week-end, excusez-moi, mais Raïm Korsia, le grand rabbin de France l'indiquait. Il y a aujourd'hui ce besoin pour la famille, mais aussi pour la société, qu'il y ait ce procès. Pour moi, les choses sont très claires. À partir du moment où vous consommez volontairement de la drogue, des médicaments ou de l'alcool, vous devez répondre de vos actes. Il y a deux façons de le faire.
Maintenant, il faut changer la loi pour que la prise de stupéfiants ne supprime pas cette responsabilité pénale.
Ou les médicaments ou l'alcool.
Bien sûr.
Mais il y a deux façons de le faire. Il y a la façon anglo-saxonne. Il y a dans la common law anglaise, canadienne, la possibilité de juger ce type de fait. Chez eux, c'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a aussi une proposition de loi sénatoriale qui a été déposée par Mme Goulet qui permettrait dès maintenant de le faire. Je vous le dis, je suis, vous l'avez compris, en totale opposition avec le président de la République sur ces questions. Mais si demain, un tel projet est déposé, je le soutiendrai parce que là, c'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est la France qui est en jeu.
Je voudrais vous interroger sur un sujet important, c'est la lutte contre l'islamisme. Vous en faites, Xavier Bertrand, un combat essentiel. Mais dans la région des Hauts-de-France, vos opposants au Rassemblement National pointent des compromissions de votre part, notamment au sujet d'un lycée, le lycée Averroès, auquel vous avez mis du temps avant de suspendre les subventions parce qu'il reçoit, semble-t-il, un financement du Qatar. Vous avez
mis
du temps ?
C'est moi.
Mais pourquoi tout ce temps avant de suspendre ?
C'est tout simplement que dès qu'il y a eu une véritable suspicion avec l'ouvrage de M. Malbruno sur un financement par Qatar Charity, j'ai aussitôt engagé les actions. Aussitôt. Et j'ai demandé aussi au ministère de l'Éducation nationale qu'il nous dise s'il y avait des contreparties, si lui-même, le ministère de l'Éducation nationale, était capable d'obtenir ces garanties. Je ne les ai toujours pas eues, ces garanties.
Une question un peu plus politique pour conclure. Édouard Philippe était hier sur Europe 1, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Est-ce qu'il peut faire à Emmanuel Macron ce qu'Emmanuel Macron a fait à François Hollande ?
Bon, surtout, Emmanuel Macron nous avait dit que c'était un divorce à l'amiable. Ben, au final, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. C'est que c'est un divorce et certainement pas à l'amiable. Et maintenant, je crois qu'Édouard Philippe, c'est devenu le problème d'Emmanuel Macron.
C'est peut-être un jour le vôtre. Est-ce que vous craignez une candidature, Édouard Philippe ?
Non, je pense que c'est vraiment le problème d'Emmanuel Macron.
Merci Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info avec Théo Manval, la météo de Laurent Cabrol avant de retrouver Jimmy Mohamed et Fanny Agostini. Restez bien sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Théo Manval.
Xavier Bertrand propose à l'instant sur Europe 1 une peine d'un an de prison ferme minimum et non aménageable pour tous les auteurs d'agressions sur des policiers, des gendarmes ou des maires. Proposition qu'il dit vouloir soumettre à un référendum dès l'automne 2022 s'il était élu. Le dirigeant des Hauts-de-France, candidat déclaré à la présidentielle à droite, était l'invité politique de Sonia Mabrouk. Alors que Jean Castex est attendu, lui, aujourd'hui dans le Haut-Rhin pour annoncer les sites retenus pour la création de 15 000 nouvelles places de prison. Le Premier ministre sera accompagné par le ministre de la Justice qui veut s'appuyer sur ces nouveaux établissements pour sa stratégie dite du détenu travailleur, stratégie censée favoriser le retour vers l'emploi, Chloé Triomphe.
Oui, c'est visiblement l'une des priorités du garde des Sceaux, favoriser le travail en détention et faciliter la réinsertion à la sortie comme outil de lutte contre la récidive. Alors, dans ces nouvelles prisons, deux publics sont particulièrement ciblés. D'abord, ceux qui nécessitent un accompagnement soutenu, que ce soit en matière sociale ou médicale, lors des deux dernières années de leur peine, mais aussi dans trois prisons expérimentales de 180 places chacune, un public sélectionné en fonction de sa motivation pour un retour à l'emploi, quasiment sur dossier pour vulgariser, avec un accompagnement vers des métiers en tension et des métiers d'avenir. Mais ces deux types de structures ne composent évidemment pas l'essentiel des nouvelles places de prison à venir. Il faut aussi des places dans des établissements plus classiques, d'autant que certains doivent disparaître pour cause de vétusté. Mais attention, les 15 000 places annoncées ne seront pas livrées d'ici la fin du quinquennat, tout juste 5 000 d'ici 2023, et le reste encore en construction.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe. Ce mardi marque également le coup d'envoi des états généraux de la laïcité, annoncé dimanche par Marlène Schiappa. Conférences, débats et tables rondes qui doivent durer jusqu'à l'été. Sur le plan sanitaire, l'Agence européenne du médicament rendra cet après-midi son avis sur le vaccin Johnson & Johnson, qu'attend notamment la France, où l'épidémie ne recule pas malgré deux semaines maintenant de semi-confinement. À la différence de nos voisins portugais, nombre de cas divisé par 25 depuis la situation dramatique de janvier. 4 mois de fermeture très stricte ont permis de rouvrir bars, restaurants et depuis hier soir, salle de concert où s'est glissé notre chanceux correspondant Henri de la Guérie.
Entouré de 4 musiciens dans le joli petit théâtre de Loulé, Teresa Salgueiro interprète des chansons de la Révolution des œillets de 1974. Entre deux morceaux, elle a une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du Covid. Elle remercie le personnel soignant. Privée de scène depuis janvier, elle a l'impression de revivre.
C'était une émotion très très forte de rencontrer le public.
Ça vous avait manqué ?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, chanter, c'est comme respirer. Alors de pas chanter et de pas être avec les musiciens, c'est terrible.
Dans la salle, un siège sur deux doit rester libre. Les spectateurs portent le masque. On a pris leur température avant d'entrer. Les artistes ont dû faire un test PCR. C'est un peu contraignant, mais la réouverture des salles était urgente, explique Paulo Silva, programmateur du théâtre.
Ça aide à faire bouger aussi l'économie. Il y a beaucoup d'artistes au Portugal qui, à 4 mois, qui ne font rien. C'est des milliers de personnes. C'est nécessaire.
Le concert affiché complet pour Vitor, présent dans la salle. La culture et le Covid ne sont pas incompatibles.
Ça peut se combiner parfaitement, comme a eu justement l'exemple ici.
Et à la fin du concert, tous les spectateurs sont repartis avec un œil rouge. Loulet, Henri de la Guérie, Europe 1.
L'actualité économique et la fin programmée des centres commerciaux géants en périphérie des villes. Les députés ont adopté en première lecture à l'Assemblée nationale l'interdiction de ces centres de plus de 10 000 mètres carrés dans le cadre du projet de loi climat. Il faudra la confirmation du Sénat, mais Aurélien Fleureau, les professionnels du secteur sont très inquiets.
Oui, la bataille n'est pas perdue, me disait l'un des acteurs concernés, mais il y a malgré tout de la résignation face à ce texte. Interdiction au-delà de 10 000 m² pour lutter contre l'artificialisation des sols et même dérogation obligatoire à partir de 3 000 m², soit une décision prise dans un bureau parisien pour un sujet local, regrette Gontran Turing, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux, qui déplore également que ces restrictions ne concernent pas les acteurs du e-commerce.
Bon, on sait que c'est un projet de loi qui est évidemment très politique, qui fait suite à la Convention citoyenne. Sachant que tout commerce confondu, les commerces ne représentent que 4% de l'artificialisation des sols depuis 10 ans. Mais en revanche, cette loi ne s'applique pas aux entrepôts logistiques des pure players, Amazon pour ne pas le citer, qui aujourd'hui a des projets de très grande dimension. Un projet à Nantes, par exemple, qui fait 185 000 m² sur des terres agricoles. Donc là, on trouve qu'il y a deux poids, deux mesures.
En tout cas, les projets de centres commerciaux XXL, c'était le monde d'avant, reconnaît Gontran Turing, qui regrette tout de même que ce texte empêche les centres commerciaux qui ont une trentaine d'années en moyenne de se moderniser et donc de s'agrandir en proposant des logements, un cinéma ou encore une crèche.
En bref, à l'étranger, les jurés se sont retirés pour délibérer depuis 23 heures cette nuit dans le procès de la mort de George Floyd à Minneapolis. L'avocat du policier Derek Chauvin a demandé l'acquittement de son client. C'était un meurtre, a au contraire asséné le procureur. Les 12 jurés vont devoir trancher à l'unanimité. La liberté de la presse totalement ou partiellement bloquée dans plus de 130 pays, alerte Reporters sans frontières. L'ONG publie son classement annuel ce matin. Les trois quarts des pays de la planète sont épinglés. Seuls 12 en vert sur la carte et la France 34e n'en fait pas partie. Enfin en football, l'UEFA se réunit aujourd'hui pour affiner sa stratégie de riposte contre les 12 grands clubs qui veulent lancer leur Super League. Sur le terrain, chez nous, premier quart de finale de la Coupe de France ce soir, avec en lice les deux derniers petits poussets de National 2. Rumilly affronte l'actuel deuxième de Ligue 2, Toulouse. Et puis la sensation Canet en Roussillon, les tombeurs de l'OM au tour précédent défient un autre cador de Ligue 1, Montpellier. La tâche s'annonce rude, mais pas insurmontable pour le co-président canetois, Thomas Taravel.
L'appétit vient toujours en mangeant, hein. On va pas dire qu'on va se satisfaire de ça aujourd'hui. Après, on est loin d'être favori. Si on sort à ce tour, on saura aussi profiter de cette belle aventure et de ce quart de finale historique, hein. Mais bien entendu qu'aujourd'hui, plus on se rapproche du Stade de France et plus on a envie d'y aller. Montpellier est une équipe qui est certainement plus collective que pouvait l'être Marseille quand on les a joués, hein. C'est une équipe, un match qui sera certainement beaucoup plus difficile. Notre coach, qui sait très bien analyser nos adversaires, va tenter de trouver un plan de jeu pour essayer de les faire déjouer.
Le co-président du club de foot de Canet en Roussillon, Thomas Taravel.
C'est autre chose que la Super Ligue.
Axelmay. Oui, c'est autre chose. C'est notre Super Ligue à nous, c'est notre Super Ligue de France.
Ça,
il n'y a pas Canet en Roussillon dans la Super Ligue. Hein,
non,
c'est quand même,
il reste des places à prendre.
Il n'y a plus d'épopée comme ça.
C'est Théo Manval, merci beaucoup. Tiens, vous nous avez emmené écouter du fado en Argentine. Bah, on n'a pas encore de concert, nous, en France, mais on a de la musique. Et dans, allez, 10 minutes, Angèle Châtelier, on écoute le monde chanter et on va prendre des nouvelles d'Oasis. Maybe I don't really wanna know how you got and grow. J'ai dit Argentine, je voulais dire Portugal évidemment, puisque nous étions au Portugal il y a quelques instants. Pourquoi pas, il y a de la musique, très bonne musique aussi en Argentine. Oasis et Liam Gallagher en particulier, on écoute le monde chanter. C'est dans 10 minutes sur Europe 1, après notre santé et notre planète avec Fanny Agostini. Mais d'abord, Laurent Cabrol à 8h37 pour la météo.
Ouais, c'est
de
super.
L'orage.
C'est super.
Si
oui.
Je vous ai bien su. Bah oui. Je vous vois venir.
Oui, alors bah écoutez, oui, des orages, mais pour l'instant, ils sont très très discrets. Il n'y aura que des averses orageuses, mais je crois que ce sera la dominante des 4 jours qui viennent. Nous allons avoir des orages qui seront parfois un peu forts, et je m'inquiète non pas pour les orages, on en a l'habitude, mais parce que qui dit orage dit grêle, et vous me voyez venir après le gel, la grêle, voilà qui nous inquiète un peu. Bon, enfin bref, on va pas dramatiser, nous en restons à simplement à cette appréhension. Nous avons sur les côtes atlantiques en ce moment un grand voile nuageux qui va gagner tout le bassin méditerranéen. Ce voile nuageux donne quelques ondées, quelques petites pluies en ce moment du côté de Nantes. Et puis partout ailleurs, dans le nord, en Ile-de-France, dans l'Est, etc., nous aurons une alternance de nuages et d'éclaircies et de quelques ondées aussi. Mais des ondées qui auront donc cette petite connotation orageuse avec des températures, et ça c'est le seule bonne chose de la journée, 15 à 20 degrés température maximale après la fraîcheur du matin, pour ne pas dire la froidure. 15 à 20, c'est pas mal.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1. Notre santé, tous les matins, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors vous allez nous parler d'une étude qui montre que de nombreux Français n'auraient tout simplement pas leur vaccin à jour, et notamment celui de la coqueluche.
Oui, car lorsqu'on parle de la coqueluche, mais aussi d'autres maladies comme la poliomyélite ou la diphtérie, on pense qu'elles n'existent plus de façon naturelle et on oublie qu'elles ont disparu chez nous grâce à la vaccination. Et justement, si on regarde la couverture vaccinale de la coqueluche, moins d'un jeune adulte sur deux est à jour de sa vaccination contre cette maladie. Et si justement on regarde les plus de 45 ans, ils sont moins de 40% à avoir ce vaccin un jour. Or, les études sont claires, il faudrait que 90% de la population soit vaccinée correctement pour ne pas voir réapparaître ces maladies, dont la coqueluche. Alors, c'est vrai que, mine de rien, la coqueluche, comme ça, ça n'a pas l'air très grave. Je vous rappelle que c'est une infection bactérienne, mais qui est potentiellement mortelle chez les nouveau-nés et extrêmement contagieuse. Vous savez, dans le coronavirus, lorsque vous êtes malade, vous allez contaminer entre 2 et 3 personnes. Et bien, pour la coqueluche, chaque malade va en contaminer 15. Ça veut donc dire que nous avons probablement une bonne raison de se faire vacciner.
Oui. Comment savoir, d'ailleurs, si on est à jour de ces vaccins et contre quoi il faut se faire vacciner ?
Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la vaccination est obligatoire pour les enfants nés après cette période, les protégeant contre 11 maladies dont fait partie la coqueluche. Et le dernier appel chez l'enfant se fait entre 11 et 13 ans. À l'âge adulte, le rappel se fait à 25 ans, puis 45 ans et 65 ans. Et puis à partir de cet âge, le système immunitaire étant moins performant, il faut donc se vacciner tous les 10 ans. Le vaccin qu'on réalise à ce moment-là protège contre 4 maladies. La coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos. Tétanos qui existe toujours. Je vous rappelle qu'une simple blessure avec une petite épine présente sur une rose peut transmettre cette infection qui est potentiellement mortelle. Raison pour laquelle je vous recommande de mettre à jour votre calendrier vaccinal. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, allez faire un tour sur le site vaccinationinfoservice.fr. Vous retrouvez plein d'informations intéressantes sur la vaccination.
Merci Jimmy Mohamed. Notre santé tous les matins sur Europe 1. Évidemment, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h avec Mélanie Gomez. 8h41. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète tous les matins. Vous vouliez nous parler ce matin d'écologie, bien sûr, mais de cette sensibilité à l'écologie grandissante. Ça se développe de plus en plus dans les abbayes.
Mais oui, en prenant l'exemple de l'abbaye de Boulor dans le Gers. Alors imaginez 45 hectares avec vergers, vaches, chèvres, cochons au milieu des champs de sarrasin. Et pour s'en occuper, 31 sœurs cisterciennes qui préparent du fromage, des pâtés, de la confiture et de la farine qu'elles vendent en circuit court tout en jonglant avec leurs responsabilités monastiques. Des sœurs qui sont très connectées et qui ont fait appel au crowdfunding pour financer la construction de deux nouveaux bâtiments qui vont venir décupler la capacité de production de l'abbaye.
Et dans leur pratique, elles se rapprochent de la perfection, vous dites.
On peut dire ça. Les sœurs appliquent une logique de permaculture. Elles n'utilisent pas de pesticides ou d'engrais chimiques et elles réutilisent intelligemment les ressources à leur disposition pour maximiser la production sur leur terrain. Les vaches ne sont nourries qu'au foin. Le fumier est utilisé pour fertiliser le verger et les légumes non comestibles sont donnés, eux, aux cochons. Du coup, pas besoin d'engrais de synthèse. Les animaux sont tous laissés en libre circulation dès qu'il fait beau et les locaux de la traite des vaches sont spacieux et propres. Et puis pour irriguer les champs de sarrasin, une digue est en construction en ce moment sur la colline qui les surplombe. Toute cette production alimentaire, elle sert soit directement à l'alimentation des 31 sœurs, soit à l'hôtellerie, soit à la vente directe sur le terrain de l'abbaye.
Et cette application, ce type d'application au pluriel écologique d'ailleurs, est-ce que c'est en vogue dans les institutions religieuses ?
Clairement, vraiment. Et cela dès les années 90. L'église chrétienne s'est dotée de sa propre interprétation de l'écologie, on peut dire l'écologie intégrale. Une écologie qui tient bien sûr compte des rapports humain-nature, mais qui implique aussi un retour à soi et un retour à l'autre. De nombreux monastères s'attellent donc à utiliser leur terrain dans le plus grand respect des pratiques écologiques, d'autant plus qu'ils n'ont pas vocation à être productifs ou compétitifs. Mais au-delà de l'application d'une agriculture durable sur les lieux de vie et de culte, les institutions religieuses ont aussi été capables de se mobiliser contre des projets jugés nocifs pour l'environnement. Depuis la COP21, de plus en plus d'organisations religieuses appellent aux mobilisations de leurs membres dans les marches climat, d'autant plus lorsque les projets industriels menacent directement les lieux de culte en Russie. Par par exemple, un bras de fer entre le dernier monastère bouddhiste de l'Oural et une compagnie minière a permis d'éviter que le site ne se transforme en désastre écologique.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1. Dans quelques instants, le meilleur de Nicolas Canteloup, la revue de presse. Avant cela, on écoute Le Monde chanter avec Angèle Châtelier. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, avant de retrouver Nicolas Canteloup et sa revue de presse, qu'on écoute Le Monde chanter toute cette semaine. Et c'est avec vous, Angèle Châtelier. Bonjour,
bonjour
Angèle.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous me faites plaisir. C'est surtout un rocker qu'on va entendre chanter, c'est Liam Gallagher.
Et oui, car vous avez encore quelques semaines, Mathieu, pour voir un superbe documentaire intime disponible sur arte.tv sur le trublion du rock, le sale gosse, on dit aussi Liam Gallagher, leader avec son frère Noël du mythique groupe Oasis. Est-ce que vous vous souvenez, Mathieu, de ce que vous faisiez le 28 août 2009?
Je crois que je travaillais et que j'annonçais quelque chose d'assez triste.
Voilà, c'était assez triste. Donc vous n'étiez pas au festival
non.
Rock en scène où ce soir-là, un message s'affiche sur les écrans géants à la suite d'une altercation au sein du groupe. Le concert d'Oasis est annulé. Un membre de l'équipe d'Oasis arrive sur scène pour l'annoncer au public.
Je suis très désolé, mais Oasis ne marche pas.
Et ça, Liam Gallagher s'en souvient très bien.
Noël s'est esquivé dans sa Ferrari avec son garde du corps. Il avait déjà préparé sa petite déclaration. Et après ça, c'était fini pour Oasis.
Ce documentaire, Mathieu, que je vous conseille vivement, s'appelle As It Was, le plus grand comeback du rock and roll, celui de Liam Gallagher depuis la séparation d'Oasis.
Je suis fier d'être resté en vie et d'être ici. Les gros titres sont déjà prêts. Mais vous vous êtes emballés, les gars. Je suis là pour rester.
Oui, Liam Gallagher est toujours là.
Liam Gallagher est toujours là, plus que jamais. Avec ou sans son frère, il s'en fiche toujours avec son franc-parler, mais surtout sa musique. Mathieu, son premier album, As You Were, sorti en 2017, est même entré dans la légende. 16 000 exemplaires en vinyle se sont vendus rien qu'en une semaine. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans au Royaume-Uni. Et depuis, Liam Gallagher enchaîne les concerts, remplit les salles, sort un autre album en 2019, Why Me, Why Not, plébiscité par la critique.
Mais Angèle, on ne peut pas dire qu'entre-temps, les relations entre Liam Gallagher et son frère Noël se sont apaisées pour autant.
Oh non, c'est ce que confie Liam dans le documentaire, on l'écoute.
J'ai pas son numéro. Il flippe trop pour le filer à ma mère.
Vous ne vous êtes jamais revu?
Non, jamais. Je pourrais aussi bien le poursuivre avec un pic à glace que lui sauter dessus pour lui faire un gros câlin. Qui sait? Pour l'instant, je lui en veux encore. Il a saboté mon groupe.
Mais alors cette chanson, Mathieu, For What It Worth, comprenez, pour ce que ça vaut, semble être sa rédemption. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour le mal, écrit-il. Je serai le premier à dire j'ai fait mes propres erreurs. Alors un jour, peut-être, le groupe Oasis se reformera.
Bah, oui, cela dit,
peut-être.
Si, entre le pic à glace et le câlin, enfin, je peux comprendre l'inquiétude de l'autre côté. Quoi.
De
il y a
poids,
peut-être
deux mesures.
Une certaine réserve. Noël qui est d'un naturel beaucoup plus calme, comme frangin, comme on dit. Alors peut-être qu'on peut croire un jour à une reformation de Oasis. Merci Angèle. On va entendre, pour le plaisir, une chanson de Liam Gallagher.
Et oui, ouais. C'est donc One of Us sur Europe 1.
Hey kid, did you know today 16 years ago it was you and I for the last time. You weren't good, he said, with a smoke ring round your head. You would see me on the other side. Like you don't remember.
Le documentaire As It Was, le plus grand comeback du rock'n'roll sur le succès de Liam Gallagher, est donc disponible sur arte.tv. Merci Angèle Châtelier,
merci,
à demain.
Merci Mathieu, à demain.
Demain Prince.
Sur Prince, évidemment.
Prince, 8h52. Ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, les meilleurs moments. On va retrouver Roselyne Bachelot qui nous a fait un point sur la réouverture des lieux culturels. La ministre de la Culture qui est avec nous, bonjour madame.
Oui, bonjour à votre fine équipe.
Alors, est-ce que les cinémas et les théâtres vont rouvrir?
Écoutez, ma chère Julie, vous le savez, j'ai été ministre de la Santé. Donc je sais à quel point c'est difficile une crise sanitaire. Si on doit faire attendre la culture, eh bien on la fera attendre. De toute façon, vous étiez si pressé que ça de voir les Tuches 4. Non. Bon, alors, où est le problème? Si vous êtes, je le dis à vos auditeurs, si vous êtes à ce point-là en manque de cinéma, vous pouvez le reproduire chez vous, le cinéma.
Ah,
mais
ah bon,
oui, mais vous renversez un seau de pop-corn et du coca par terre. Hein, vous collez minutieusement des chewing-gums mâchouillés au préalable sur les accoudoirs du canapé. Hein, vous demandez à toute votre famille de ne pas prendre de douche. Vous vous installez sur le sofa en marchant bien dans les pop-corns. Vous mettez un DVD avec le son bien trop fort et vous demandez aux enfants de donner des coups de pied dans le dos du canapé en parlant pendant toute la durée du film. Voyez, ça coûte pas cher en home cinéma.
Eh ben on fera ça. Aura-t-on assez de vaccins? Jean Castex, le Premier ministre, va répondre. Il est avec nous.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à papy et à mamie qui ne voulaient pas de vaccin au début et qui en veulent un maintenant qu'on n'en a plus. Papy et mamie, ils commencent à nous les briser menu. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout.
C'est-à-dire?
Eh bien, Madame Julie, et s'il y a pénurie, nous avons déjà pensé à tout. Nous attribuerons les vaccins restants et avec un système informatisé, piloté par un professionnel qui a 40 ans de métier. Et il est avec moi. Monsieur, je vous en prie, testons votre matériel que Madame Julie comprenne ce qui se passerait.
Eh bien, bonsoir à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Merci, monsieur le Premier, monsieur Jean Castex. Et oui, pour savoir qui aura droit aux dernières doses de vaccin, c'est notre ordinateur qui décidera désormais. Un choix totalement au hasard, réalisé sous contrôle d'un huissier, bien sûr, spécialisé en médecine pifométrique. Attention pour la médecine pifométrique, top ordinateur.
Alors?
Eh bien, oui, formidable. Eh bien, c'est l'Indre-et-Loire, qui aura les dernières doses de vaccin. Bon courage aux autres. On espère que vous ne mourrez pas entre-temps. À vous, monsieur le Premier ministre, à vous, Jean Castex.
Voilà. Merci, monsieur Foucault. Merci, madame Julie. Écoutez, s'il y a pénurie, tout est déjà pensé, vous le voyez.
C'est presque du direct. Le meilleur de la revue de presque sur Europe 1.
Info étonnante, la ville de Bastia s'est payée la star américaine Chuck Norris. Patrick Bruel, vous connaissez ce site Cameo où des stars enregistrent des messages en vidéo pour des sommes allant de 2 500 $ à 25 $.
Non mais attends, c'est génial ce site. Tu sais combien j'enregistre moi par mois des bons anniversaires de Jacqueline, des bons anniversaires ou des bons vœux de mariage à Sylvain et Louisette. Mais moi tu sais quoi, je le fais gratos, putain, je le fais gratos.
Non mais franchement c'est un peu la loose de faire ça, non? Chuck Norris qui a fait payer son message 328 € à Bastia.
Mais attends, mets-toi à sa place, mets-toi à ma place, ça fait un an qu'on n'a pas bossé nous les artistes. Évidemment que je le fais, moi, pour 328 balles. Hein, je le dis 10 fois s'il faut. Bonne année, Bastia. Bonne année, Bastia. Bonne année, Bastia. Hein, bim, 300 balles 3 fois. Non, c'est la misère, je dis, la vie d'artiste. Même Marlène Schiappa fait des pubs pour les lissages brésiliens, alors pourquoi pas nous? Hein, ou bien qu'on aille chercher l'argent là où on peut.
Bon, bah. Merci, Patrick. À bientôt.
Attends, Julie, j'aimerais te chanter une chanson parce que t'es sympa, je t'aime bien.
Bon, bah, je vous écoute.
Coche-nous un saucisson pur porc comme on aime chez nous. On va flancher.
Oui, c'est bon, Patrick.
La revue de presque à retrouver sur europe1.fr. 8h56. Waouh, la musique est là, c'est la musique de Philippe Vandel pour Culture Média. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Dans notre info média du jour, on parlait de la société du commentaire, celle qui invite les journalistes, les communicants, les essayistes ou encore les experts à commenter le moindre fait d'actualité au détriment de l'info pure et dure.
Je suis contre, j'ai pas d'avis.
D'accord. Justement, il y en a un qui est pas tout à fait pour, c'est Nicolas Truong, il est grand reporter au Monde, c'est lui qui dirigeait les pages idées du Monde, auteur d'un article sur le sujet. Au sommaire également de la presse écrite avec l'émergence de nouveaux magazines avec des thèmes originaux, par exemple Mortem, c'est sur la mort, ou alors Witch, réveiller la sorcière qui est en vous, c'est un mensuel féministe.
C'est à moi que vous
parlez. Et là, il lance un bimensuel santé, s'appelle Comment ça va, premier magazine santé sans pub, il y a ce titre en une que je trouve énorme, enfant, hyperactif ou juste chiant.
Je pense au que potentiel aussi.
Voilà, ça parle à pas mal de gens. Et puis enfin, l'écrivain Jean-Louis Chifflet qui sort un magazine pittoresque de littérature française. C'est rempli d'érudition et rempli d'humour avec des gros morceaux de rigolade dedans. Vous
c'est
verrez ça.
Culture Média de 9h à 11h. Et c'est sur Europe 1, bien sûr, avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Europe 1, bien évidemment. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.